pas touché au frein, y a pas de vidéo. T'as compris, ma fille? Allez, entre à la maison, ça me prie.
Moi, je suis Kader Atou, chorégraphe et directeur de la compagnie Acrorap. Et là, depuis un an et demi, l'actuel directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle.
Plus léger, plus surtout
c'est,
le début,
c'est,
quoi.
C'est le contact avec
ça. Oui, alors, évidemment, le contact avec le sol, etc. Non, voilà, vous faites un boulot extraordinaire, là, ne serait-ce que de jouer ici. Mais il faut prendre conscience aussi de ça, quoi. C'est-à-dire que même dans un lieu comme ça, on peut donner de la vivacité, on peut donner quelque chose de léger, on peut... Voilà.
Visage presque poupon, yeux rieurs, Kader Atou fait partie des chorégraphes qui comptent dans le paysage de la danse. Au point qu'en septembre 2008, il est nommé à la tête du Centre chorégraphique de La Rochelle. Le hip-hop, qui est sa matière principale, change de rang. Bien sûr, si on fait confiance à son projet, c'est qu'il a fait ses preuves depuis 1994 notamment, où il a fondé avec Mourad Merzouki, Shaouki et Eric Mézineau la compagnie Acrorap, qui donnait alors à voir une danse libre tout autant hip-hop que contemporaine. Nous avons profité de la présentation de sa dernière pièce pendant le festival Montpellier Danse pour lui demander de nous parler de lui, de la danse et du métissage. Il évoquera son enfance à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, ses origines algériennes, son apprentissage du cirque et la découverte du hip-hop avec Sydney dans les années 80. Nous mettrons en perspective de son histoire quelques pièces du chorégraphe, surtout petitehistoire.com, qui évoque l'enfance avec nostalgie, gravité et légèreté. Pour cet entretien en deux parties, nous étions près d'une mare au canard, un endroit choisi parce que Kader Atou aimerait beaucoup voler. Mais pour être plus terre à terre, la première question posée concernait sa nomination au poste de directeur du Centre chorégraphique de La Rochelle. Ça représente quoi finalement de rentrer dans l'institution ?
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'entrée dans l'institution ne date pas depuis cette nomination. La compagnie est soutenue par les institutions depuis de nombreuses années, hein, l'aide à la compagnie, les conventionnements, etc. Mais c'est vrai que intégrer, en tout cas, diriger un lieu comme un CCN, qui est quand même les hauts lieux de la danse, en tout cas de la création, quoi. C'était la reconnaissance qui manquait en tout cas à cette aventure-là, à cette culture-là, à cette danse hip-hop-là en tout cas.
Ça aurait pu tomber sur un autre chorégraphe, hein, parce que vous êtes un certain nombre, notamment après avoir fondé la compagnie Acrorap, je pense à Merzouki notamment, vous êtes un certain nombre à porter le hip-hop en dehors de ses clichés, on va dire. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est tombé sur vous ?
Parce que j'étais, je pense, le seul à avoir postulé. En tout cas, oui, lorsque j'ai vu qu'il y avait un CCN, notamment celui de La Rochelle, qui se libérait, j'ai senti que j'avais une légitimité, en tout cas, de postuler pour ce poste-là. Je ne pensais pas que j'allais être choisi. J'ai écrit un projet, j'ai défendu un projet. Ça m'a pris un peu plus d'un an et je suis très content que ce projet ait été retenu, quoi.
Alors maintenant, on va peut-être revenir au début. Alors peut-être votre naissance, hein. Vous êtes né en France avec des parents d'origine algérienne.
Je suis un Gaune, moi je suis un Lyonnais. Je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon. Et voilà, je suis issu de ce qu'on appelle une double culture. Mes parents sont algériens. L'Algérie, c'est pas un pays que je ne connais pas. Au contraire, c'est un pays que je connais très bien. Et voilà, j'ai grandi dans cette richesse-là, entre là-bas et ici, entre ici et là-bas. Et, à l'image de ce que ça a été, en tout cas, ma vie, mon adolescence, voilà, j'ai toujours été dans le brassage multiculturel. J'ai toujours eu des copains de tout horizon et encore aujourd'hui, quoi.
Je crois que vous l'avez dit, alors peut-être à moi, à un moment, quand nous discutions, que vous avez eu une enfance tout à fait heureuse.
Oui, ça c'est vrai. Lorsque je repense à mon enfance, j'ai eu une enfance heureuse, chérie. Mes parents m'ont aimé autant que mes autres frères et sœurs. Voilà, j'ai pas eu de... Non, j'ai eu une belle enfance. Qui du coup, en même temps, quand j'en parle, est quelque chose de très présent en moi, en fait. Parce que dans mon travail, j'ai l'impression que je suis toujours en lien avec ce qu'on a pu être quand on était enfant, ado. Parce que c'est quelque chose que je ne veux pas voir de manière mélancolique, mais plutôt comme quelque chose qui fait toujours partie de nous, même à 36 ans. Ouais. et j'espère encore pendant longtemps.
De votre enfance, il est question dans petitehistoire.com, hein, votre avant-dernière pièce, vous habituez à dire pièce plutôt que spectacle, quoique j'ai l'impression que quand même vous jouez des deux. Hein. Enfin, il y a vraiment, notamment dans petitehistoire.com, vous convoquez un peu les arts du cirque, des arts visuels, une scénographie très présente.
Oui, oui, tout à fait. En même temps, je ne sais pas, j'ai dû faire peut-être une douzaine de créations. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Et je suis assez content pour cela, parce que pour moi, une création, c'est à chaque fois quelque chose de nouveau, une remise en question, une recherche, des doutes, beaucoup de doutes. Et voilà, on avance au fur et à mesure. Et au final, ça donne petitehistoire.com qui pour moi, je le voulais en lien direct avec l'enfant, justement, quoi. Et lorsque j'évoque mon enfance, eh ben à côté de moi, j'ai Charlie Chaplin, Harold Lloyd, j'ai les dessins de Follon, Jean-Michel Follon, sur la fermeture d'Antenne 2, des programmes à l'époque.
C'est le personnage qui vole, c'est ça ?
Oui, bah, Antenne 2 à l'époque, les programmes où s'ouvraient au petit matin, c'est-à-dire à 7h, et se fermaient, fermeture 23h, je crois. Et Antenne 2 avait la particularité d'avoir une animation, en fait, qui était faite par Jean-Michel Follon, qui est un grand bonhomme pour moi, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, et qui envoyait des petits bonhommes avec une sorte de gabardine bleue. Et ces petits bonhommes étaient sur cette terre et ouvrait les bras en battant les ailes comme pour voler, mais s'envoler vraiment, réellement, de manière... Et ça me faisait rêver, quoi. Ça, qu'est-ce que ça va... Ouais. Qu'est-ce que ça a pu me faire rêver pendant des années. Ma mère nous couchait le soir, parce qu'il y avait école le lendemain. Je m'endormais un petit peu et je me réveillais juste avant la fermeture, juste pour voir cette séquence, pour pas louper cette séquence. Et je m'envolais, quoi. Et c'est vrai que dans petitehistoire.com, j'ai essayé de retrouver en tout cas toutes ces sensations traversées en regardant mon père regarder Charlie Chaplin et le voir, mais mourir de rire, quoi. Et moi, j'étais fasciné de voir ce papa, quoi, qui était bidonné devant Charlie Chaplin. Il y avait vraiment quelque chose de très doux.
Alors, petitehistoire.com est traversé par la beauté, donc une petite libellule qui vole, je me souviens de la plume aussi, enfin, je crois que c'est comme ça que commence le spectacle. Après, il y a effectivement l'univers de Chaplin avec la bouffonnerie, un peu, l'extravagance autour d'un canapé, donc ça, j'imagine que c'est aussi des souvenirs d'enfance entre frères et sœurs, peut-être, à se battre qui mettra quelle chaîne.
Tout à fait. Oui, complètement. Le titre est vraiment juste, en tout cas, des petites histoires. Et en fait, c'est des petits pépites d'or de tranches de vie, en tout cas. L'histoire du canapé, oui, c'est le dimanche après-midi, lorsqu'on était devant la télé sur les séries B, et qu'on se bagarrait pour avoir une place à côté du fauteuil, etc. Enfin, c'est tout ça. C'est en passant par... Il y a une idée très forte et récurrente quand même dans ce spectacle, c'est l'envol. Parce que quand j'étais petit, je passais mon temps pendant les vacances scolaires, au printemps, à chasser les papillons. Et vraiment, je passais des après-midi entières, quoi. J'avais un sac en plastique, je les mettais là-dedans un par un. Et ensuite, j'avais une petite boîte en fer, avec une petite spatule, je m'en rappelle. Et je les prenais un par un, ces pauvres papillons, et j'essayais de récolter cette fameuse poudre qui dégage, que les ailes dégageaient en tout cas. Et ça, c'était vraiment très minutieux. Et lorsque j'en avais suffisamment, je me rappelle, je m'étais construit des ailes en carton avec deux bouts de bois, et je répandais cette poudre sur les ailes, et pour moi, c'était la clé de l'envol. Et ça, j'ai fait ça des jours et des jours, quoi. Et en y repensant, ça m'a fait... ça m'a fait chaud au cœur, quoi, de tous ces papillons que j'ai massacrés, mais qui étaient au service d'un rêve de gosse. Et ce rêve de gosse, aujourd'hui, est intact, parce que j'ai toujours envie de m'envoler, quoi. Et là, je crois que, sincèrement, je risque de prendre des cours de pilotage dans un petit aéroclub, là, par exemple, quoi. Je me suis décidé, quoi.
Toujours l'envie de voler, hein, et puis... de prendre des papillons, de les triturer, malgré le mythe d'Icare qui démontrait que ça ne se passait pas comme ça. Quoi.
Non, ça c'est certain. Mais du coup, le spectacle petitehistoire.com, c'est aussi en hommage à ces papillons-là. C'est-à-dire, c'était une manière aussi pour moi de me réconcilier, en tout cas, avec ces âmes de papillons de par mon innocence, j'ai fait un vrai massacre pour combler un plaisir personnel. Et c'est aussi un spectacle auquel j'ai beaucoup pensé à ma fille. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on n'observe pas suffisamment ce qui se passe autour de nous, et notamment les enfants. Et les enfants sont extraordinaires, quoi. Et une vraie leçon de vie, des fois, ils peuvent nous donner. Parce que l'innocence est là, quoi. L'innocence est fragile, l'innocence est belle, lorsqu'on voit les tonnes de questionnements qui peuvent se demander, c'est beau. Je trouve ça beau.
Mon papa, dès qu'il entendait cette cloche, c'était le moment de rentrer, de s'engouffrer dans cette cuisine. J'ai eu l'occasion quelquefois de le voir. Et il rentrait, tantôt le matin, tantôt l'après-midi, des fois le soir. Je ne savais pas ce qu'il faisait à l'intérieur. Sauf que ma mère, lorsqu'il rentrait, elle me disait « Chut ! Faut pas le déranger, il fait les 3-8. »
Alors, petitehistoire.com que vous reliez à votre fille, en revanche, vous parlez de votre père qui travaillait au 3-8, hein. c'est comme ça dans le spectacle. Quelle résonance ça a, cette histoire avec le père ?
Alors, j'avais un père qui travaillait chez Renault. Il faisait les 3-8 et j'entendais souvent dire à la maison « Faut pas le déranger, il fait les 3-8. » Et moi, je comprenais pas ce que c'était les 3-8. 3-8, 3-8, et je sais pas, d'un coup, je me suis dit, mais oui, mais c'est bon, j'ai compris, c'est la fête foraine, le grand 8. Tu vois, et du coup, j'ai commencé à imaginer mon père à s'éclater dans cette usine, quoi. Chaplin n'a pas aidé, parce que lorsque j'ai découvert les temps modernes, je pensais vraiment que Chaplin était dans l'usine, quoi. Et ça, ça a mis du temps, en tout cas, pour que je réalise, en tout cas, la réalité de la condition de travail de mon père. C'était pas facile parce qu'il était c'est un système d'horaire pas facile encore aujourd'hui, mais en plus il travaillait dans le secteur fonderie, quoi. Donc été comme hiver, il travaillait à plus de 40 degrés avec des conditions assez dures. Et aujourd'hui, de tout cela, le fait d'avoir ce décalage, de m'être imaginé autre chose, ça a rendu en fait la condition de mon père moins dure. Le regard que j'ai porté, ça a rendu quelque chose de très poétique. Et surtout que papa, c'est quelqu'un qui s'est jamais plaint. Il s'est jamais plaint. Et c'est une telle force que j'avais envie de lui dire cela. Mais on est issu d'une culture où, chez nous, on ne parle pas beaucoup, en tout cas entre parents, quoi. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et pour moi, j'avais vraiment envie qu'il entende ça, que j'ai été... ému par la personne qu'il était, par la force qu'il avait, et j'avais envie de lui partager, j'avais envie de lui dire la vision que je me suis fait depuis, pendant des années. Et d'ailleurs, chez mes frères et sœurs, pareil, ça a été quelque chose, une vraie émotion lorsqu'ils ont découvert ce spectacle-là, parce que même eux, ils n'imaginaient même pas ça, quoi. Et évidemment, ils se sont retrouvés beaucoup dedans, quoi. Ma mère était très émue aussi. Et donc j'avais envie de lui crier cela, parce que c'est quelque chose que j'avais là-dedans, et j'avais... c'est plus de l'amour, quoi. C'est un cri d'amour.
Il m'a fallu comprendre longtemps ce que ça voulait dire les 3-8. Eh oui ! Papa, c'est un artiste ! Mon père, c'est un artiste ! 3-8 ! Moi qui rêvais, je sais pas ! Je rêvais d'être comme lui ! Un artiste, mais c'est trop vite.
Quand vous racontez l'histoire de ce père, donc ouvrier, quand vous racontez votre double culture, donc parent algérien, Kader Atou, on se dit que c'est quand même étrange qu'à 8 ans, vous fassiez l'école de cirque de Saint-Priest. Ça a été facile ? Enfin, c'était facile dans votre famille ? Il y a eu vraiment une ouverture ? Vous avez dû vous battre pour faire ça ou pas ?
Alors non, c'est arrivé différemment en fait. Ça, je le dois grâce à ma mère, qui un jour, avec mon frère, parce que j'ai un frère, on est jumeaux, j'ai un frère jumeau, mais on se ressemble pas du tout, quoi. Donc on était très complices pendant des années ensemble, et un jour, ma mère vient nous chercher à la sortie de l'école et nous emmène dans un endroit qui n'était pas du tout le chemin de la maison, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on se retrouve, en fait, à l'entrée d'un centre d'arts martiaux. Et maman nous avait... voulait nous inscrire au karaté, à la boxe américaine ou taekwondo, pour pouvoir, s'exprimer, se défendre, canaliser une énergie, qu'on avait certainement très forte, très riche. Peut-être aussi pour se défendre, parce qu'on se faisait taper par les copains. Et ça nous a tout de suite plu, en tout cas. Et c'est dans ce centre d'arts martiaux que le professeur, en fait, sélectionnait certains élèves qui savaient faire une roulade, avaient, un peu de dextérité avec un petit peu l'acrobatie. Et il nous demandait de venir le week-end pour travailler. Et là, c'était pour un seul but, c'était de créer des chorégraphies de combat. Alors la chorégraphie est arrivée très tôt, en fait, chez moi, quoi. Pas la danse, mais la chorégraphie, l'idée de chorégraphier quelque chose. Et donc, c'était un mélange de combat chorégraphique, en fait, avec de la musique, et ça prenait vie, une dimension spectacle. Et ça, c'était énorme. Vraiment, c'était énorme. Et au fur et à mesure, en fait, ce même prof a un jour intégré un trapèze, des balles, si. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est transformé en une vraie école de cirque, de ville, quoi, de petite ville à Saint-Priest. Et ensuite, on a eu une telle renommée qu'on a même participé, je me rappelle, au Festival de Auch, qui est le rendez-vous, en fait, des rencontres circassiennes, en fait, à cette époque-là. Et c'était vraiment une très, très belle aventure qui a duré 10 ans, en tout cas pour moi.
Alors, comment s'est fait la bascule, du côté du hip-hop ?
Eh bien, j'avais 8 ans, ça a duré 10 ans. À 18 ans, je suis parti, pour des raisons personnelles. Et entre-temps, 84, l'émission de ciné a chippé, qui arrive un jour sur TF1, le dimanche après-midi. Et là, on découvre une danse saccadée. J'entendais des mots comme smurf, break. Et c'était génial, quoi. Il y avait un truc, on les voyait tourner sur les dos. Vraiment, c'était quelque chose qu'on prenait en pleine tête comme ça. Et la particularité dans cette émission, il y avait ce qu'on appelle la leçon de danse. Pour clôturer l'émission qui durait peut-être 40 minutes, je crois, il y avait la leçon de danse. Et là, c'était un des danseurs qui montrait tel ou tel mouvement. Ce qui a permis justement à un certain nombre, à se retrouver en bas du quartier et essayer de reproduire ce qu'on voyait, quoi. Et en fait, la danse est arrivée comme ça, de manière très, comme beaucoup, par cette émission-là. Et elle ne m'a jamais plus quitté.
Bon, eh bien, l'heure est à la leçon de danse. Aujourd'hui, une leçon que vous attendiez certainement tous en France. C'est la leçon qui s'appelle le spin, le tour sur le dos. Ok, on y va. We go, hein. Il y a différentes façons de tourner sur le dos. Nous, on en connaît 3, et c'est déjà pas mal. C'est surtout les prises d'élan qui sont toutes différentes. Regarde un peu.
Alors, est-ce qu'à ce moment-là, c'était une danse de quartier ? Parce que maintenant, le hip-hop, à chaque fois qu'on pense hip-hop, on pense danse de quartier liée au rap, au hip-hop, forcément. Mais à cette époque, c'était comment ? Enfin, parce que c'était précurseur, effectivement, avec une émission de télé, celle de Sydney. Mais qu'est-ce qui se passait en dehors de...
Déjà, à cette époque-là, on se disait même pas que c'était une danse de quartier, parce que c'est... Je dirais, nous, on n'était pas dans des considérations banlieue, quartier, etc. Nous, moi, j'ai toujours vécu avec des Portugais, des Espagnols, des Français dans le quartier. Donc, il n'y avait pas cette façon de ghettoiser un peu les quartiers, quoi. C'est arrivé beaucoup plus tard, quoi. Mais on sentait qu'il y avait une vraie communauté autour de cette danse-là, tout simplement. Même les grands frères. Et mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi, dansait avec ses potes. Alors t'imagines, moi le gosse, le gamin que j'étais, je regardais mon grand frère danser, le smurfing, etc. J'ai dit waouh. Donc non, ça a touché énormément de gens. Ça correspondait aussi comment dire, à tout ce mouvement pour l'égalité. Enfin, il y avait des problèmes déjà à cette époque-là, mais l'égalité menée par
Harlem Désir,
la marche des beurs, etc. Quoi. Bon. Non, il y avait une vraie fraternité en tout cas, à ce moment-là, quoi, dans cette danse. Et c'était pas du tout un métier, c'était pas du tout. C'était une vraie passion, c'était un plaisir.
Au CHU de Limoges, des médecins ont fait de l'excès de zèle en réponse à la demande du procureur de procéder, je cite, procéder à tout examen clinique et radiologique pour décider de l'âge de deux jeunes filles congolaises. En plus de la radio du poignet gauche, le médecin a fait, je cite, un examen approfondi du système pileux. La jeune fille a été déshabillée et le médecin a procédé à une description détaillée des poils sous les aisselles, de l'aréole des seins et des poils pubiens. La description a été écrite.
C'est devenu justement un métier, parlons-en, hein, puisqu'on le répète, Kaderatou, vous êtes maintenant directeur à 36 ans, directeur du Centre National Chorégraphique de La Rochelle. Comment c'est devenu un métier ?
Alors, c'est arrivé par des belles rencontres que j'ai pu faire dans mon parcours, par des opportunités aussi, par des envies. Et en fait, en 89, avec les quatre copains avec qui j'ai passé... 8 ans dans cette petite école de cirque, en tout cas, on s'est dit, tiens, on va créer un groupe, parce qu'on voyait autour de nous des groupes qui commencent à se former, parce que quand l'émission s'est arrêtée en 86, le hip-hop, on n'en a plus entendu parler. Et c'est revenu en 89-90 avec le rap.
Évitons toute erreur, j'attaque avec saveur, fêtant l'auditeur, le touchant en plein cœur, je gonfle l'argument, le structure largement, je rappe. Expliquant à chacun que ce domaine est le mien, car je vais et viens sur les aléas du tempo, oui, sans aucun accroc. Normal pour un pro. Sur ce, je m'introduis, frôlant l'exploit de par ma voix, mon rap t'assomme. Mes rimes te donnent la cadence pour entrer dans la danse, sans pour autant te sentir étouffé par ma prestance, ni par ma prestation, car je fais un carton. Écoute mon lyrics, enregistre la leçon, ça semble clair, limpide, facile à faire, mais tout est étudié. Chaque parole est dosée, pesée, pour renforcer et rehausser la qualité de mon phrasé, n'est-ce pas, Joey?
Et la particularité, c'est que dans les clips de rap, on voyait des danseurs derrière. Et donc, on découvrait aussi une nouvelle danse, la hype, etc. Et là, je voyais plein de petits groupes qui se formaient, etc. On s'est dit, tiens, nous, on va créer un groupe aussi, quoi. Et c'est comme ça qu'est née l'association Acro-Rap, en fait. Et on s'est dit, on va créer un groupe de danse en mettant aussi tout ce qu'on a appris à l'école de cirque. Donc du coup, on avait une vraie originalité à cette époque-là. Il y avait vraiment, on se démarquait des autres sans le vouloir, de manière très très claire et très spontanée, quoi. De la danse avec l'acrobatie, avec des échasses, par exemple. C'était pas commun. Hein. Ensuite, on a eu l'occasion, en fait, de partir à Zagreb en 93, à l'initiative d'une OMG qui nous avait vu un jour danser, je sais plus où. Et qui, cette personne qui s'appelait Brigitte, nous avait dit, vous savez, cette région traverse un conflit, l'ex-Yougoslavie, il y a des gens, ce qu'on appelle des réfugiés, il me semble important, en tout cas, que vous venez donner des cours de danse, partager votre danse à des jeunes de là-bas, quoi, à ces jeunes réfugiés, quoi. Ça nous avait fait peur, mais on y est allé parce que... ça nous semblait important, quoi. Et c'est vraiment là-bas qu'en fait c'est devenu un vrai projet de vie pour moi, parce que ça a été un tel voyage, un tel bouleversement, une telle rencontre qu'on a pu faire pendant 3 semaines dans 3 camps de réfugiés autour de Zagreb. Et en fait, on passait presque toutes nos journées là-bas, quoi. On était en contact des enfants, on dansait toute la journée. À midi, on était invité à manger la pita, une sorte de plat traditionnel bosniaque, dans ces petits baraquements où ils étaient logés, les gens. Et ces gens témoignaient beaucoup de leur histoire. Et donc il y avait un vrai dialogue, quoi, une vraie écoute qui a duré 3 semaines. Et ces gens-là nous disaient, quand vous rentrez en France, parlez de nous. Parlez de notre histoire. Racontez qu'on est là, qu'on existe. Et Ça, c'est un déclencheur. Et le deuxième, c'était moi qui ne parlais pas anglais, pas bosnaque, croate, baragouiner quelques mots, comme baragouiner quelques mots de français. Mais en fait, il n'y avait pas besoin de mots pour se comprendre. On passait des jours entiers à communiquer par le corps, par des mimes, par des trucs. Et là, j'ai réalisé deux dimensions. La dimension universelle de la danse, et que la danse est un vrai langage, en tout cas, qu'on peut vraiment faire passer, communiquer, faire passer des émotions, partager ensemble. Et ces mères-là, j'ai encore le visage de la mère d'Inessa, par exemple, qui me disait, je regarde, j'ai ce visage-là, qui me disait, racontez notre histoire. Et du coup, ce comment dire, on était quelque part ambassadeur d'une histoire qui nous était commune, mais qu'on devait nous retranscrire, quoi. Et c'est devenu un projet de vie à ce moment-là pour moi, quoi. Et je me suis dit, c'est ce que j'en, c'est ça ma vie en tout cas, c'est le métier que je voudrais faire.
C'était la première partie d'un entretien avec Kaderatou. Vous avez pu entendre aussi une partie de l'univers du chorégraphe, le générique des Nuits d'Antenne 2, des extraits de H.I.P. H.O.P. de Ciné sur TF1 et l'un des premiers morceaux de NTM, Je rappe. Et puis aussi, bien sûr, des extraits de son spectacle PetiteHistoire.com. Dans la deuxième partie, nous parlerons d'un voyage qu'il a effectué en Algérie, pays de ses parents, et puis d'une pièce chorégraphique qu'il a rapportée de là-bas. Nous parlerons aussi de ses racines et puis aussi de sa dernière création 2010.